Nous allons donc cet après-midi étudier ensemble ce thème particulier, le rôle de la Bible dans la croissance spirituelle. La première question que nous devons nous poser, c'est bien sûr, qu'est-ce que la croissance spirituelle ? La croissance spirituelle, c'est le développement de la personne du chrétien tout au long de sa vie et de sa marche avec Dieu. Tout comme il existe ce qu'on pourrait appeler une croissance naturelle, à savoir que le corps humain se développe de celui d'un petit enfant que nous étions il y a plus ou moins longtemps, selon les âges, pour certains c'est récent encore, pour d'autres c'est plus lointain comme nous, comme moi, et le corps se développe et pour cela il faut que l'enfant se nourrisse principalement, qu'il s'active aussi, qu'il se soigne s'il est malade, ou qu'il soit soigné quand il est malade, eh bien, de la même manière, il y a une croissance spirituelle. Notre nouvelle nature en Jésus doit se développer, et pour cela, il faut qu'elle fasse certaines choses. Une fois qu'on devient chrétien, une fois qu'on découvre la foi en Jésus, on ne se laisse pas vivre, d'une certaine manière. C'est un petit peu comme si un enfant disait « Bon, ben maintenant j'ai mangé depuis quelque temps, maintenant je peux m'arrêter de manger, j'ai plus besoin de manger. » Le chrétien a besoin de manger, et ce que le chrétien mange, c'est sa nourriture spirituelle, d'où l'importance de parler de la Bible. Bien sûr, il y a d'autres activités pour développer sa nature spirituelle, il y a la prière par exemple, il y a l'étude de la Bible et sa compréhension, et puis l'exercice de la foi dans la vie de tous les jours. Tout cela participe de la croissance de notre vie avec Jésus. Alors, autre question, pourquoi la Bible est-elle si importante ? J'ai parlé dans le titre du rôle de la Bible dans la croissance spirituelle. On appelle souvent la lecture de la Bible, ou la Bible en elle-même, la parole de Dieu, et on dit qu'il faut se nourrir de cette nourriture spirituelle qu'est la Bible. Jésus, par exemple, a dit, et cette parole nous la trouvons aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, Jésus a dit au diable qui le tentait de transformer, parce que vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, au tout début, avant son ministère, le diable est venu le voir et lui a dit « Si tu as faim », parce qu'il savait que Jésus avait faim, il jeûnait depuis 40 jours, et il lui a dit « Si tu as faim, toi qui es le Fils de Dieu, tu pourrais transformer les pierres là qui sont dans le désert, les cailloux, tu pourrais les transformer en pain, puisque tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus lui a dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a donc, là nous le voyons, deux nourritures principales. Il y a la nourriture pour le corps, symboliquement représenté par le pain. Souvent dans la Bible, le mot pain est appelé, c'est la nourriture de base, comme pour certains encore aujourd'hui. Et souvent la Bible symbolise par ce mot-là la nourriture en général. Et de même, il y a une nourriture spirituelle. Et Jésus dit, la nourriture spirituelle, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Toutes les paroles que Dieu dit, toutes les paroles que Dieu prononce, sont pour l'être humain qui croit en Dieu, et en fait c'est destiné à tout être humain, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, dans l'espoir qu'il croira un jour, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc toute parole qui est dans la Bible, toute parole de Dieu qui est dans la Bible, va pouvoir constituer notre nourriture spirituelle. La Bible est importante parce qu'elle est la parole de Dieu. Étant donné qu'elle est la parole de Dieu, cela veut dire qu'elle contient un message de Dieu pour nous. Ce message est unique, dans le sens où il contient des livres de sortes différentes. Vous savez que la Bible est constituée de 66 livres. En fait, quand on dit livre, il y a quand même des livres qui sont très courts. Le livre de Philémon, par exemple, ne contient qu'une seule page. C'est une expression que l'on emploie pour dire un livre. En fait, c'est une lettre. Simplement. Ainsi, les lettres de Paul ne sont pas de véritables livres, certaines, comme l'Épître aux Romains ou les Épîtres aux Corinthiens, sont un peu plus longues et tiennent en une vingtaine de pages, mais d'autres sont beaucoup plus courtes. Dans cette Bible, il y a différentes sortes de livres. Il y a par exemple des récits, on les appelle souvent les livres historiques, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre des Nombres, le livre de Josué. Il y a aussi les livres de Samuel, les livres des rois, les livres des chroniques qui racontent l'histoire des différents règnes des rois qui ont régné sur Israël. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a les livres historiques comme les évangiles qui racontent la vie de Jésus, enfin qui racontent son ministère pendant environ 3 ans. Et puis il y a les actes des apôtres. Et il y a d'autres livres dans la Bible qui sont des livres plus, on pourrait dire presque plus philosophiques, ce sont les livres qu'on appelle les livres de sagesse, comme le livre de Job, les proverbes, etc. Et puis il y a bien sûr tous les livres qu'on appelle les livres prophétiques. Tous ces livres-là constituent ce que l'on appelle la parole de Dieu. Donc tous ces livres-là constituent potentiellement notre nourriture spirituelle. C'est pourquoi la parole est la Bible est la parole de Dieu, parce que tous les livres qui la composent contiennent des références à Dieu. Il n'y a qu'un seul livre dans la Bible qui ne parle pas de Dieu, qui ne contient pas le nom de Dieu une seule fois, c'est le livre d'Esther. Ces références à Dieu montrent pour l'essentiel, et c'est pour cela qu'ils sont importants pour nous, tous ces livres de la Bible, parce qu'ils nous montrent pour l'essentiel ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas, ce qu'il approuve ou n'approuve pas. Et ce faisant, la Bible nous fait connaître Dieu. Quand on connaît quelqu'un, on connaît ses goûts, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. On sait par exemple, si on l'invite à la maison, on sait qu'il y a certaines choses qu'il n'aime pas manger. Alors si on est de bons amis, on essaye d'éviter ces choses-là. Et puis si on sait qu'il aime ou qu'elle aime certains plats particulièrement, quelquefois on lui fait. Quand on connaît une personne, on sait ce qu'elle aime, ce qu'elle pense généralement, on sait quel sentiment elle a, cette personne. L'un des buts essentiels donc, sinon l'essentiel, en lisant la Bible, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, connaître Dieu. Jésus a dit un jour, dans cette prière qu'il a faite dans le jardin de Gethsémané avant d'être arrêté, Jésus a dit d'ailleurs, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est que ceux qui croient en moi te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. La vie éternelle, finalement, c'est cela. On pourrait dire la vie chrétienne, simplement, c'est cela, apprendre à connaître Dieu. Et le connaître, c'est facile, enfin c'est facile, c'est une façon de parler, ça peut prendre du temps pour bien le connaître, et peut-être même que nous pouvons dire, je crois même que nous pouvons dire cet après-midi, qu'il est impossible de connaître Dieu parfaitement. D'abord parce que la perfection n'est pas notre caractéristique principale, et ensuite parce que Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement extraordinaire, son amour est tellement immense, qu'il nous est impossible de le connaître parfaitement. Mais nous pouvons, et je dirais nous devons, apprendre à le connaître. Et l'un des buts sur terre, ou le but principal, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est donc apprendre à lui plaire, à lui obéir, à le servir et à nous rendre plus utiles à lui. Bien sûr, nous ne devons pas faire appel à Dieu uniquement quand nous avons un besoin pressant de lui, comme le font ceux qui ne viennent à l'église que de temps en temps. Il y a des gens qui viennent à l'église quand ça va mal, quand ils ont des problèmes. Ils viennent à l'église, ils sont soutenus, on prie pour eux, leurs problèmes se résolvent et on ne les voit plus. Et puis ils reviennent quelque temps plus tard et quand on les voit arriver, on dit « Ah, il doit avoir des problèmes » ou « Elle doit avoir des problèmes ». Alors je ne parle pas à vous puisque vous êtes là tous les dimanches, Mais je sais qu'il y a dans différentes églises, et dans peut-être toutes les églises du monde, des gens de ce genre-là. Mais Dieu ne veut pas que nous fréquentions l'église uniquement quand nous avons des problèmes. Bien sûr, quand nous avons des problèmes, il est bon de s'approcher de Dieu. Parce que Dieu veut nous aider dans nos problèmes. Il veut nous aider à trouver des solutions. Il veut nous aider à sortir de nos problèmes. Mais ce n'est pas le but principal pour venir à l'église. Nous venons à l'église aussi parce que nous voulons apprendre à connaître Dieu davantage. Alors, il y a 4 facteurs qui vont donc contribuer à notre croissance spirituelle, notre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Ces 4 facteurs, ce sont d'abord la lecture de la Bible, ensuite la compréhension de la Bible, parce que si nous lisons la Bible sans la comprendre, c'est un petit peu comme si nous ne la lisions pas. Le résultat sera à peu près le même. Le troisième facteur, c'est bien sûr un facteur capital qui est la foi dans ce que nous lisons. Croire que ce que nous lisons est vrai et peut nous apporter beaucoup. Et le dernier point, qui n'est pas moins important, c'est la mise en pratique de la Bible. Alors, voyons rapidement ces 4 points. D'abord, la lecture de la Bible est importante pour toutes les raisons que nous avons évoquées jusqu'à maintenant. Celui ou celle qui veut connaître Dieu ne peut pas se passer de cette révélation qui est contenue dans la Bible. La Bible contient, par exemple, dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu avec ses commandements. Vous savez, les 10 commandements essentiels. Les 10 commandements sont essentiels parce qu'ils révèlent, avant toute autre chose, qui est Dieu, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. La Bible, par exemple, dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est un premier commandement. Un peu plus loin, les commandements disent « Tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages sur quelqu'un ». Ce qui veut dire « Tu ne raconteras pas sur quelqu'un d'autre des choses dont tu n'es pas sûr qu'elles sont vraies ». Et puis même si elles sont vraies, tu n'es pas obligé de le raconter, surtout si c'est négatif. Ensuite, parce que si tu n'as pas vérifié si c'est vrai ou pas, tu risques de raconter de faux témoignages. Ensuite, par exemple, il y a un commandement qui dit « Tu ne voleras pas ». Un autre commandement dit « Tu ne convoiteras pas », c'est-à-dire « Tu n'auras pas envie de ce que l'autre possède », que ce soit sa femme, sa maison, son mari, etc. Nous ne devons pas avoir envie ou convoiter, c'est-à-dire avoir envie de prendre ce qui appartient à l'autre. Nous devons respecter l'autre. Il y a un autre commandement qui dit, par exemple, « Honore ton père et ta mère ». Ça veut dire « Respecte tes parents ». Mais ça veut dire plus que de les respecter. Ça veut dire que de leur accorder toujours une place de choix. Ça veut dire peut-être à la limite, quand tu seras en mesure de le faire et que tes parents n'auront plus les moyens de subvenir à leurs besoins, aide-les dans leurs besoins. Encourage-les. Aide-les en toutes choses. Ce sont donc des commandements, je ne les cite pas tous, qui nous permettent de comprendre la nature de Dieu. Bien sûr, la Bible contient la révélation de la volonté parfaite de Dieu pour la vie de l'homme. Elle décrit aussi l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme est important. L'amour de Dieu est une des caractéristiques principales de Dieu. Dieu se révèle dans la Bible comme un Dieu qui nous aime. Et il est important de lire la Bible pour toutes ces raisons et principalement pour savoir, pour découvrir que Dieu nous aime, qu'il veut notre bien. Pardon. Et parfois, ce que nous pensons être notre bien n'est pas ce que Dieu pense être notre bien. Parfois, Dieu nous fait passer par des moments difficiles pour nous enseigner des choses. Si c'est nous qui choisissions de mener notre vie, nous éviterions tous les moments difficiles. Nous éviterions tous les problèmes. Mais il se trouve que dans la vie, les problèmes nous aident à grandir. En lisant donc la Bible régulièrement, nous apprenons à connaître Dieu. Et pour lire la Bible régulièrement, je dirais qu'il faut en avoir envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie de lire la Bible. Ils disent « J'ouvre la Bible, mais je n'ai pas envie de la lire, je ne trouve rien, et quand je la lis, ça ne m'apporte rien. » Il faut, pour avoir envie, Je dirais que c'est un peu comme Jésus disait, il faut avoir soif. Jésus a dit un jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean ajoute, Jésus parlait du Saint-Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore donné. C'est donc avec l'aide du Saint-Esprit que nous pourrons avoir toujours plus envie de lire la Bible. Et ce Saint-Esprit va nous aider. Nous pouvons être assurés que cela va fonctionner, puisque Jésus a dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, et ce Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient en Jésus, il vous conduira, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ajoute, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. En quelque sorte, le Saint-Esprit nous aide quand nous lisons la Bible et il nous rapporte tout ce que Jésus a dit. Il nous explique, il nous éclaire afin que nous comprenions la parole de Dieu. La seconde raison importante pour laquelle il est nécessaire de lire la Bible, à côté du fait de connaître Dieu qui est nécessaire, c'est que la Bible est la source véritable de la foi en Dieu. La foi dans le Dieu de la Bible passe bien évidemment, bien logiquement, par la foi dans la parole de Dieu. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc rien ne peut nourrir notre foi, rien ne peut nous aider à avoir foi en Dieu que la lecture de la parole de Dieu. En lisant les paroles de Dieu, en lisant les paroles de Jésus, notre foi ne peut que grandir. Si par exemple nous lisons les évangiles, en lisant les évangiles, nous allons lire très souvent des paroles de Jésus. Si en lisant les paroles de Jésus, nous adhérons à ces paroles, si nous décidons de croire ces paroles, alors ces paroles auront un effet sur nous. Vous savez, quand on écoute quelqu'un parler, on a toujours le choix entre croire ce qu'il dit ou ne pas le croire. Il y a des gens que nous connaissons bien, nous savons que ce sont des gens sérieux, nous savons que ce sont des gens qui disent toujours la vérité, alors nous les croyons. Mais la foi est une décision. La foi, c'est une expression de notre volonté. Il y a d'autres gens, parfois nous ne croyons pas à ce que des gens disent, soit parce que nous ne les connaissons pas et nous ne savons pas s'ils disent vrai ou pas, ou parfois parce que ce qu'ils disent ne nous plaît pas. Alors nous refusons de le croire. Mais quand nous lisons la Bible, nous savons que nous pouvons avoir foi dans ce qu'elle dit parce qu'elle est la vérité de Dieu. Alors lire la Bible, c'est bien. Mais il y a des gens qui lisent la Bible et qui ne la comprennent pas. Alors, le deuxième point important, le deuxième facteur de notre croissance spirituelle vis-à-vis par rapport à la Bible, c'est lire la Bible, mais aussi comprendre ce qu'elle dit. Il est important de lire la Bible, mais il est plus important encore de la lire et de la comprendre. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, c'est l'une des paraboles les plus importantes de Jésus, c'est une parabole générale, disons-nous, parce qu'elle exprime ce qui se passe quand la parole de Dieu est entendue par des gens. Et vous savez que cette parabole décrit quatre sortes de personnes sous la forme de quatre sortes de terrains. Et Jésus dit, quand la semence est comme un terrain dans la campagne, quand la semence tombe sur ce terrain, selon la qualité du terrain, la semence va porter du fruit ou pas. Et Jésus dit, le cœur de l'homme, c'est la même chose. Selon la disposition du cœur, la parole de Dieu qui est entendue va porter du fruit ou pas. Elle va avoir des conséquences, elle va produire des résultats, elle va permettre de voir des choses se passer ou pas. Et Jésus dit dans cette parabole du semeur que le premier terrain représente les gens qui entendent la parole de Dieu mais qui ne la comprennent pas. Soit ils ne la comprennent pas du tout, soit ils semblent comprendre, mais ils ne comprennent pas que cette parole peut changer leur vie. En fait, le but de la parole de Dieu, en nous nourrissant, c'est de nous changer. De même que le corps humain change avec le temps, en grandissant, notamment pendant les 15-16 premières années de la vie, après il change beaucoup moins, eh bien, de même, si nous lisons la parole de Dieu et que notre terrain, le terrain de notre cœur, est un bon terrain, alors nous changerons, nous évoluerons, bien sûr, favorablement. La Bible, par exemple, nous raconte l'histoire des Israélites qui, vous savez, à un certain moment, leur pays a été envahi par des envahisseurs venus de l'Orient, venus de Babylone, venus de l'Assyrie, de la Mésopotamie, et donc de pays qui sont représentés aujourd'hui principalement par l'Irak, qui était une grande puissance dans l'Antiquité. Et leur pays avait été envahi, ils avaient été déportés dans ce pays, donc qui s'appelait la Babylonie principalement, ou l'Assyrie, et quand ils sont revenus, parce que Dieu a prévu et a permis plus tard qu'ils reviennent dans leur pays, la plupart d'entre eux, ceux qui ont bien voulu revenir, il est dit que les deux personnages qui portent un nom de la Bible, d'un livre de la Bible, Néhémie et Esdras, leur ont expliqué la parole de Dieu. Et lorsqu'ils leur ont expliqué la parole de Dieu et ce qu'elle signifie vraiment, ils ont été tout tristes. Ils se sont affligés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient de grands pécheurs, que s'ils avaient été déportés, c'est parce que leurs ancêtres ou eux-mêmes avaient marché dans des voies qui n'étaient pas celles de Dieu. Mais la Bible dit que Néhémie et Esdras, quand ils ont vu cela, leur ont expliqué le vrai sens de la parole de Dieu. Ils leur ont expliqué que Dieu, certes, n'était pas content du comportement de leurs ancêtres ou du leur, mais qu'il voulait leur pardonner, parce que Dieu les aimait. Et il est dit que lorsque Esdras et Néhémie leur ont expliqué la Bible, ils se sont réjouis car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Une bonne lecture de la Bible doit provoquer une réaction. Quand on lit bien la Bible, on doit pouvoir la comprendre. Et quand on la comprend, on réagit. Soit mal, en refusant de la lire davantage, soit en s'approchant de Dieu parce qu'on le découvre tel qu'il est. Nous pourrions citer également l'exemple de ce haut fonctionnaire éthiopien qui avait rencontré l'évangéliste Philippe, et Philippe lui avait dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il a dit « Non, je ne comprends pas, il faut que quelqu'un m'explique. » Et quand Philippe lui a expliqué le sens de ce qu'il lisait, l'Éthiopien a compris qu'il était pécheur et qu'il pouvait découvrir l'amour de Christ. Et un peu plus tard, il a dit « Je veux être baptisé » et il a été baptisé. Il y a toujours une réaction à la lecture de la Bible. Le troisième facteur, c'est la foi. Lire la Bible, la comprendre et la croire. Bien évidemment, il faut absolument la croire pour qu'elle puisse avoir un effet sur nous. La croire, c'est se placer dans le bon terrain, le terrain favorable. Le terrain qui va permettre de porter du fruit. Si nous croyons ce que dit la Bible, c'est pas encore suffisant, nous allons voir qu'il y a un dernier facteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si nous croyons la Bible, nous donnons à Dieu la possibilité d'agir dans notre vie, de nous aider, de nous faire découvrir qui il est vraiment, de bénéficier de son aide. Dans la fin de son évangile, l'évangéliste Jean dit à propos de ce qu'il a raconté dans son évangile, les paroles et les actions de Jésus, il dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Donc nous voyons ici que le but de la Bible, c'est que nous la lisions, que nous la comprenions, et que nous la croyons. Si nous la croyons, nous allons déclencher un processus. Ce processus, c'est celui de l'action de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Quelqu'un a appelé l'évangile de Jean l'évangile de la foi. Ce qui est vrai à son sujet est vrai avec tous les livres de la Bible. Si nous croyons ce que la Bible dit, nous croyons alors nous allons croire alors que Dieu existe vraiment, qu'il est vrai, que tout ce qu'il dit est vrai, que tout ce qu'il dit, nous pouvons nous appuyer dessus, et nous découvrirons alors une vie très très différente. Si donc nous voulons trouver Dieu dans sa parole, nous devons croire qu'il est vrai, qu'il est vraiment celui qu'il dit être, qu'il peut intervenir. Parce que nous voyons dans la Bible que très souvent les hommes se sont trouvés dans des situations difficiles, mais que lorsqu'ils ont vraiment mis leur confiance en Dieu, Dieu les a toujours sortis de leur situation difficile. D'ailleurs, Jésus a dit que s'il était venu, c'était afin que ceux qui croient en lui aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce qui veut dire, Jésus veut que ceux qui croient en lui, et Dieu, Jésus fera en sorte que ceux qui croient en lui puissent découvrir une vie qu'il qualifie lui-même de vie abondante, c'est-à-dire une vie riche de sens, riche de possibilités. Alors le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est la nécessité de la mise en pratique de la parole de Dieu. Mise en pratique, ça veut dire la lire, la comprendre et la croire et conformer sa vie à l'enseignement de la Bible. Jésus a dit, à propos de son enseignement, il a dit ça à ses disciples, « Si vous connaissez ces choses, c'est-à-dire si vous connaissez mon enseignement, et si vous le retenez, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. » Le bonheur existe, le bonheur avec Dieu, on peut le trouver si on lit sa parole, si on la comprend avec l'aide du Saint-Esprit, si on la croit vraiment comme étant la parole de Dieu et si on la met en pratique. Et d'ailleurs Jésus dit que c'est en la mettant en pratique que nous nous rendrons compte qu'elle est vraie. C'est en croyant en Jésus que nous verrons qu'il est vraiment celui qu'il prétend être. Nous verrons, nous découvrirons que Jésus nous aide vraiment. Nous verrons des problèmes se résoudre. Nous verrons des situations que nous jugerons impossibles à régler se résoudre sans que nous soyons intervenus parce que nous aurons mis pour cela notre confiance en Dieu. Il y a trop de chrétiens qui entendent ou lisent régulièrement la parole de Dieu sans pour autant faire ce que Dieu leur demande de faire. C'est-à-dire, tout simplement, croire ce qu'il dit, et vivre en s'appuyant sur cette parole. Par conséquent, en lisant la Bible et en nous efforçant avec son aide de la comprendre, de saisir par la foi qu'il est capable de nous donner la victoire dans toutes nos difficultés, nous ne serons pas condamnés à la défaite, nous ne serons pas condamnés ni même à la routine, parce que nous découvrirons chaque jour dans sa parole des vérités nouvelles, des capacités nouvelles que Dieu nous donne et nous découvrirons vraiment qui est Dieu, qui il veut être pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.